au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve David Gaillardon.
Au fil des pages, bonjour. Il est l'un des écrivains les plus brillants de sa génération et la preuve qu'on peut faire de la bonne littérature sans se commettre sur n'importe quel plateau de télévision. Né en 1966 à Caen, ancien élève du lycée Louis le Grand à Paris, il est passé par la rue d'Ulm. Agrégé d'histoire, il enseigne aujourd'hui à la Sorbonne. Cet ancien chroniqueur à la revue L'Œil et aux magazines Urban est aussi le rédacteur en chef de Grande Galerie, la revue de l'actualité du Louvre. Il trouve le temps d'être chroniqueur au Figaro, au lecteur duquel il présente l'actualité des expositions artistiques. On le voit, l'art et l'histoire jouent une place centrale dans la vie d'Adrien Goetz, romancier dont l'œuvre a été récompensée du prix Victor Nourrit de l'Académie française en 2007 et couronné de nombreux prix, le prix des Deux Magots, le prix Roger Nimier, tous deux prix attribués à son roman La Dormeuse de Naples, paru en 2004. Facétieux, érudit, Adrien Goetz est capable de passer d'un style à un autre au fil de ses ouvrages, voire au sein même de ses romans. Difficile alors de classer ce grand lutin plein d'esprit qui aime à faire s'égarer son lecteur dans des intrigues gigognes qui ont fait le succès de ses deux derniers romans, Intrigue à l'anglaise, paru en 2007, et Intrigue à Versailles, paru lui au printemps dernier. Adrien Goetz, bonjour.
Bonjour David Gaillardon.
Alors après Intrigue à l'anglaise, vous récidivez dans un genre à la mode, le polar, on ne sait pas trop comment on prononçait cette contraction de policier et de roman artistique, avec Intrigue à Versailles, un genre littéraire qui suppose une manière d'écriture très différente de celle que vous aviez adoptée dans La Dormeuse de Naples. Vous semblez passer d'un genre à l'autre avec beaucoup de facilité.
Oui, j'ai voulu m'amuser. Vous dites que c'est un genre à la mode. En réalité, il l'est redevenu. Mais c'est un genre qui est assez ancien, de mêler l'histoire, l'art, l'histoire de l'art et une intrigue de type policière. Moi, mes grandes références, c'est les aventures d'Arsène Lupin, c'est tous ces romans que je lisais quand j'étais adolescent et qui m'ont beaucoup marqué, beaucoup plus que les romans ou les polars ou les thrillers qui actuellement s'inspirent du monde de l'art. Donc pour moi, c'est aussi une manière de faire passer des choses que j'aime, que je connais, sur le monde des musées, sur le monde des monuments historiques. À Versailles, c'était un régal de travailler pendant plus d'un an à Versailles en prenant des notes, en essayant de découvrir un peu les arrière-cabinets, les tréfonds du palais et des jardins aussi. Donc pour moi, c'est la même passion, c'est-à-dire que j'enseigne l'histoire de l'art, c'est ça que j'aime par-dessus tout. Et puis, à partir de travaux que j'espère sérieux, je referme tout et j'essaie d'inventer des histoires et de rêver à des intrigues. La Dormeuse de Naples, c'est un roman dont l'action se situait au XIXe siècle et qui avait comme point de départ un fait tout à fait réel, c'est qu'un gravé peint l'odalisque du Louvre, que tout le monde connaît, mais aussi un pendant à ce tableau qui était la Dormeuse de Naples, tableau qui a appartenu à Murat et qui a disparu dès 1815, au moment où Murat voit son royaume s'écrouler et fusiller, le palais de Capodimonte est envahi et on perd la trace de ce tableau. Et donc j'avais, comme une sorte de rêverie, voulu écrire un roman sur ce tableau disparu et essayer d'évoquer ses avatars au XIXe siècle, faire le roman d'un tableau, le roman d'une toile, en imaginant qu'elle avait traversé les ateliers entre l'Italie et la France, qu'elle avait pu être vue par Corot, être vue par les élèves de Géricault, et que ce tableau avait continué d'exister alors même que Monsieur Ingres, lui, la cherchait et voulait peut-être la retrouver, la refaire, la peindre à nouveau dans une nostalgie de l'œuvre perdue et peut-être du modèle qu'il avait posé pour cette Dormeuse de Naples. Donc c'était un roman plutôt romantique, dirais-je. Il y avait cette vision très datée et qui est effectivement, vous l'avez senti, ça me fait plaisir, qui est tout à fait différente des deux derniers, où là j'ai joué à fond le jeu du roman policier. Voilà, j'ai voulu entrer avec une héroïne qui s'appelle Pénélope, qui est une jeune conservatrice qui vient de sortir de l'École nationale du patrimoine, une jeune conservatrice fraîchement diplômée et qui a envie de découvrir le monde et qui est, pour le moment, a été confrontée à deux endroits que tout le monde croit bien connaître et qui en réalité sont fort mystérieux. Bayeux, avec la tapisserie, le musée de Bayeux, le centre Guillaume le Conquérant, et puis Versailles, donc dans ce dernier roman, Intrigue à Versailles, qui est paru cette année.
Alors, des romans, vous le disiez vous-même, qui ont nécessité des recherches. Vous vous êtes promené, vous avez rencontré pas mal de monde, je pense, dans la conservation à Versailles. Et vous évitez un écueil qui est quand même redoutable, c'est d'éviter de tomber dans le roman d'érudition. C'est le piège, ça.
Alors, c'est gentil de le dire, parce que j'essaie de ne pas faire un roman écrit à coup de fiche. Je crois que ce qu'il y a de pire, c'est le roman de professeur.
Oui,
vous voyez,
oui,
donc
oui.
Ça, c'est pour le
lecteur.
Il y a
lecteur, pire encore, le roman cuistre. Alors, ça serait une catastrophe.
Alors, il y a même des romans, dont on n'en citera aucun, mais où on voit apparaître des notes de bas de page. Bon, donc j'essaie de ne pas faire ça. J'essaie de lire beaucoup de choses. À chaque fois, je m'imprègne d'un lieu et d'un moment historique. Et puis ensuite, de refermer les livres, d'oublier tout ça et de bâtir vraiment un mystère, une intrigue et de faire en sorte que ce soit l'histoire, l'énigme qui est le premier plan, qui l'emporte. Et ensuite, évidemment, je reprends les livres pour vérifier. Et puis à la fin, vous avez vu, il y a 10 pages où je reprends un peu à l'intention des lecteurs qui veulent...
Pour ceux qui veulent aller plus loin.
Oui, démêler le vrai du faux, voir un peu ce qui était de l'invention et ce qui était réel, où je reprends sous forme d'une petite bibliographie pas très sérieuse, quoi. Voilà. Enfin, je leur donne des pistes de lecture, oui, pour expliquer comment ils peuvent prolonger la lecture du roman et voir que bien souvent les choses les plus invraisemblables sont tout à fait réelles et ont des sources authentiques, et puis qu'en revanche, à l'inverse, il y a des choses qui paraissent crédibles et qui sont là de pure fiction, de pure invention.
Alors, même si on est dans des genres très différents entre La Dormeuse de Naples et les deux intrigues, intrigue à l'anglaise et intrigue à Versailles, on vous sent très joueur, on vous sent animé d'une volonté de perdre ou d'égarer, je dirais,
le lecteur. Ça m'amuse beaucoup. Oui,
ce sont des romans gigognes, des romans palimpsestes.
Par exemple, Versailles appelle ça. Oui. Quand vous vous promenez aujourd'hui dans Versailles, l'architecture elle-même est une architecture
un
dédale, avec des petits escaliers. Vous poussez une porte et vous découvrez quelque chose que vous n'attendiez pas. Tout est à double fond. Donc le lieu même inspiré.
Et
ce
vous
type
l'avez vécu
de,
ça en ayant accès, par exemple, peut-être plus librement qu'un visiteur lambda.
Oui, on m'a laissé aller où je voulais. Ça, c'était une. Je le dois à Jean-Jacques Ayagon, le président de Versailles, à qui j'avais dit que j'écrivais un roman sur Versailles. Et donc, on m'a laissé vraiment tout regarder, tout voir. Et puis, j'ai écrit un roman qui est pour moi une vraie aventure inventée. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un roman à clé. Dans mon roman, il y a évidemment un président de Versailles, il y a évidemment des conservateurs, il y a des gardiens, il y a beaucoup de personnages qui peuvent rappeler des tels ou tels traits réels. Et je n'ai pas voulu jouer à ça du tout. Hein. Donc, c'est vraiment... J'ai inventé mon Versailles avec ses conservateurs, avec ses gardiens qui font leur ronde du matin et leur ronde de nuit. Et puis, je n'ai pas voulu non plus donner les vraies clés de Versailles, parce qu'il y a tout le dispositif de sécurité. Moi, je ne voulais surtout pas que dans un roman, je mette en péril. Vous voyez, imaginez que je puisse être accusé d'avoir été la cause du casse du siècle au château de Versailles. Donc, tout ça est inventé. Tout ça est complètement faux, mais assez vraisemblable.
Alors, vous vous en défendez, mais c'est une question que je voulais vous poser. Je pense que beaucoup de lecteurs se la sont posée. Il y a quand même des clés, quoi que vous disiez, parce que même dans la description de Versailles, c'est très savoureux. On a une espèce de mythologie à la Roland Barthes, ces querelles de paroisse, les bons fournisseurs, la ville de sous-préfecture. Versailles, c'est quelque chose d'étonnant. On est tout près de Paris, en même temps, on est déjà en province. Enfin,
oui, mais je voulais pas.
La visite du Lambinet, elle est très savoureuse, par exemple.
Oui, je voulais pas tomber non plus dans les clichés caricaturaux contre les Versaillais. Voilà. Mon héroïne, Pénélope, s'en amuse, joue de tout ça. Et puis, je voulais que ce roman Intrigue à Versailles soit le roman du château de Versailles, mais aussi du parc et de la ville. Voilà. Traiter Versailles comme une entité. Et effectivement, quand on regarde un peu cette ville, qu'on y séjourne un peu longuement, elle ne ressemble à aucune autre. C'est-à-dire que c'est vraiment... On n'est ni à Paris, ni en province, on n'est certainement pas
c'est
en
à
banlieue.
Part, voilà, une ville écrasée par son histoire,
oui,
peut-être.
Et qui même géographiquement est déséquilibrée. Là, quand vous regardez le plan de Versailles, la moitié de la superficie, c'est cette zone qui est le parc, le château, où finalement les Versaillais vont assez peu. Et donc la ville... La ville est déséquilibrée. Alors, elle a l'apparence d'une ville très convenable. Mais dès qu'on gratte un peu, on découvre que c'est le refuge de beaucoup d'excentriques, de personnalités inclassables, de gens qui sont venus du monde entier atterrir à Versailles dans cette espèce de lieu qui ne ressemble à aucun autre et qui, même historiquement, il y a des moments où on ne sait plus du tout à quelle époque on est à Versailles. On ne sait pas si on est dans les années 1930, si on est encore un peu sous le grand roi. Enfin, il y a aussi des déséquilibres chronologiques qui sont très saisissants. C'est une machine à fantômes. On pourrait voir apparaître au détour d'une rue aussi bien Marcel Proust que Madame de Pompadour. Il y a vraiment ça à Versailles et qui fait que la ville vaut beaucoup mieux, à mon sens, que les quelques clichés qu'on colporte toujours sur elle.
Machine à fantômes, galerie de portraits, vous en faites quelques-uns, vous en brossez quelques-uns. Mais on rit beaucoup dans Intrigue à Versailles. Il y a énormément d'humour, beaucoup d'esprit.
J'aime bien observer ces personnes que j'aime beaucoup, qui sont nos conservateurs de musées. J'en connais énormément. Ils ont leur charmante petite manie.
Leur marotte.
Voilà, c'est ça. Et je m'amuse avec ça. Et j'étais très content de voir que la majorité d'entre eux avaient pris ça par le bon côté et m'avaient dit qu'il fallait que je continue, hein, à travers Pénélope, à regarder cette petite planète de ceux qui animent les grands musées.
Et puis alors il y a ce tournage de film, cette Nancy Regalado qui fait inévitablement penser à Sophie Coppola. Alors vous nous direz sans doute qu'il n'y a aucun lien, aucun
rapport. Nancy Regalado, elle est...
Et ces tournages de films dans Versailles, c'est très amusant.
Elle existe vraiment, c'est-à-dire que c'est Michel Zinc qui m'en a fait la remarque. Elle enseigne la littérature française aux États-Unis dans une très grande université. Et je l'avais croisée autrefois, j'avais retenu ce nom,
c'est
extraordinaire.
Ça, voilà.
Et j'ai juste conservé ce nom. Et puis ensuite j'ai reçu une lettre de Michel Zinc en me disant « Vous êtes-elle bien autorisée à utiliser son nom ?» et à la transformer en personnage. Donc il y a évidemment un peu de Sofia Coppola. Puis ça m'amusait de montrer que Versailles sert aussi constamment pour ce type de... Il y a les films, il y a l'art contemporain. Hein. Dans le roman, il y a aussi ça. Il y a un conservateur du Centre Pompidou qui veut à toute force qu'il y ait des manifestations d'art contemporain à Versailles. Donc c'est tout ce qui se passe aujourd'hui dans Versailles. C'est-à-dire que Versailles, ce n'est pas uniquement un lieu muséifié, c'est aussi un endroit très vivant où il peut se produire des choses extrêmement étranges liées. Alors ici, à ce tournage avec la fête de fin de tournage qui est
une
aussi
tradition,
dans le... Voilà, et ça se passe dans l'opéra. Et c'est une occasion de voir réunis quelques-uns des suspects, puisque c'est une intrigue policière.
C'est très intéressant parce que cette intrigue vous permet d'aborder différents sujets. Vous êtes aussi un historien de l'art, vous enseignez, vous êtes, je pense, membre de différents conseils aussi. Et vous abordez la notion de patrimoine. Il y a une espèce d'entreprise qui s'appelle Patrimoine Plus, c'est ça, qui est un conseil en communication de conservation.
Oui, je voulais qu'on comprenne bien qu'autour des monuments, aujourd'hui, il y a bien sûr les conservateurs qui font un excellent travail, mais il y a aussi des privés qui seraient prêts à faire le même type de...
On pense à Culture Espace. Alors c'est peut-être
inconscient. Vous avez pensé à
c'est peut-être inconscient, mais bon.
Cher David Gaillardon, mais je ne sais pas. Non, c'est pas du tout un roman à clé.
C'est le lecteur
vraiment.
Que je suis qui a imaginé beaucoup de choses. Mais alors, on aimerait savoir justement, parce que vous abordez des choses très drôles, ce musée qui fonctionne au 110 volts, par exemple, ces équivalences qui n'en sont pas. On visite la chambre de Louis XIV, mais son pendant, la chambre de la reine, c'est celle de Marie-Antoinette. Des conservateurs complètement différents les uns des autres se sont succédés. On pense au flamboyant, au baroque de Van der Kemp. Et puis avant, il y a eu des gens comme Nolac, beaucoup plus austère, beaucoup plus scientifique. Et moi, j'ai envie de vous demander... mais
chacun a laissé sa trace.
Et oui, mais alors qu'est-ce que doit être aujourd'hui la conservation d'un bateau aussi gigantesque,
c'est
aussi
un grand
protéiforme,
oui,
ce paquebot qu'est
Versailles. Et je crois que c'est aussi ça que je voulais faire passer à travers ce roman. C'est-à-dire que le lecteur, quand il devient et redevient visiteur de Versailles, puisse à chaque instant se poser des vraies questions. Se dire ce que je visite, ce qu'on me montre là, de quand réellement est-ce que ça date ? C'est-à-dire à quel moment la chambre de la reine a pris cette apparence ? Et cette question se pose aujourd'hui avec une acuité extraordinaire, parce que quand on arrive à Versailles, on est nez à nez avec cette nouvelle grille archidorée qui a été installée cette année. Et ça, je me suis amusé, parce que dans le roman, Pénélope, ma conservatrice, dit ce projet de réinstaurer une grille royale, ça ne se fera jamais. Les conservateurs vont faire front contre le lobby des architectes et une telle chose ne pourra pas exister. Donc aujourd'hui, c'est ce qui accueille le visiteur et les groupes de touristes venus du Japon et d'ailleurs se font immédiatement photographier devant cette grille qui est l'état 21e siècle de la façade du château de Versailles, puisque vous savez qu'elle s'appuie sur le pavillon du four qui a été construit au début du 19e siècle à une époque où la vieille grille d'Ancien Régime avait déjà été détruite. Donc ce qu'on montre aujourd'hui, ce qu'on voit aujourd'hui quand on arrive à Versailles, c'est une façade du bâtiment qui n'a existé historiquement à aucune époque, qui est une façade d'aujourd'hui et qui sert d'ailleurs à une fonction d'aujourd'hui puisqu'elle permet de répartir les visiteurs qui ont payé le ticket d'entrée et ceux qui ne l'ont pas, s'en sont pas encore acquittés. Donc on a un État 21e siècle qui remplit une fonction 21e siècle, mais qu'on a peut-être le tort de nous présenter comme la restitution du Versailles de l'Ancien Régime. Ça, c'est, voilà des vraies questions. Voilà des questions que le visiteur n'est pas forcément amené à se poser de lui-même.
Et je voulais, qu'à
travers la lecture de ce roman, on développe un regard critique, qu'on ne soit pas à Versailles à suivre un troupeau de visiteurs dans les grands appartements, mais qu'on ait cette idée de tout discuter, cette attitude de l'historien, se dire, quel document avait-on, de quand est-ce que ça date, pourquoi est-ce qu'on l'a refait ainsi, et aussi qu'on comprenne bien que c'est un matériau vivant, que Versailles n'a pas été mis sous cloche ni à la fin de l'Ancien Régime, ni sous Louis-Philippe, et qu'aujourd'hui encore, tout ça se transforme, et se transforme même au gré des interventions temporaires d'artistes d'aujourd'hui. Jeff Koons l'an dernier, Xavier Veillant
en
ce moment. Donc ça c'est quelque chose qui m'amuse, qui me choque pas du tout. Je trouve beaucoup plus choquant la fausse nouvelle grille. Vous voyez, la fausse grille royale me paraît de l'art contemporain beaucoup plus
déplacé,
parce que ça, de l'art d'aujourd'hui qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que cette grille a été faite par un architecte qui aurait dû la revendiquer et la signer. Alors que, paradoxalement, Jeff Koons ou Xavier Veillant, parce que c'est éphémère, parce que tout ça va disparaître dans 2 mois, restitue l'esprit ancien des fêtes de Versailles. Vous vous souvenez, les fêtes de l'île enchantée, tous ces décors éphémères, tout au long des différents règnes des Louis, et puis sous Louis-Philippe encore, au moment de l'inauguration des galeries historiques, il y a eu des décors éphémères, des fêtes éphémères, et on retrouve un peu cet esprit-là, cet esprit de jeu, de fête, qui laissera des souvenirs, qui laissera aussi le souvenir de la polémique, de la discussion.
Et Dieu sait qu'il y en a eu.
Il y en a eu, mais c'est très bien, ça montre qu'on est dans un lieu vivant.
Alors Adrien Goetz, marquons une pause, si vous le voulez bien, dans nos querelles d'anciens et de modernes, le temps d'écouter Charpentier. Nous retrouvons Adrien Goetz qui vient nous présenter Intrigue à Versailles, un roman paru au printemps dernier chez Grasset, et nous parlions de l'introduction de l'art contemporain à Versailles. On a beaucoup parlé de la rétrospective Jeff Koons l'an dernier et actuellement de l'installation de Veillant. Alors, vous nous donniez un point de vue qui est défendu par certains et bien entendu que d'autres critiquent. On oublie très souvent que les espaces qui ont été occupés l'an dernier par Jeff Koons, par exemple, sont des espaces qui ne sont pas les plus passionnants de ceux qu'on voit à Versailles, qui sont souvent de grands corridors très froid, et que faire venir l'art d'aujourd'hui à Versailles, c'est peut-être aussi le moyen de faire découvrir aux visiteurs des espaces dans lesquels ils déambulent sans s'attarder habituellement.
Alors ça paraît un peu... Ce discours-là, moi quand je l'ai entendu, m'a paru un peu démagogique. Je me suis dit, est-ce que c'est bien vrai? Et en réalité, oui. C'est-à-dire que ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont jamais venus à Versailles et qui viennent pour cette raison-là. Il y a aussi même des Versaillais qui reviennent au château, qui n'ont souvent visité qu'il y a fort longtemps, et qui y reviennent au besoin pour pouvoir protester, pour pouvoir dire mais qu'est-ce que c'est, mais... et finalement les gens revoient Versailles autrement, ça oblige à regarder les choses avec un œil très différent. Par exemple, il y avait une chose qui a beaucoup scandalisé l'an dernier dans l'exposition de Jeff Koons, il y avait une salle des appartements du côté des appartements de la reine, dans la salle des gardes de la reine, je crois, là où il y a les grands portraits montrant les sœurs de Louis XVI, enfin, des séries de portraits féminins. Il y avait des aspirateurs dans une vitrine. Et on disait, mais quel scandale, quelle horreur. Et puis, alors, d'un seul coup, quand moi j'étais dans cette salle, je m'amusais de voir quel regard Madame Elisabeth pouvait porter sur l'aspirateur. Et d'un seul coup, je lui prêtais une espèce de regard amusé. Et ces portraits devant lesquels j'étais passé sans vraiment les détailler, retrouvaient une personnalité, se mettaient à revivre. Bon, c'est un peu naïf, c'est un peu ridicule, mais en même temps, on les regardait peut-être comme leurs premiers spectateurs au 18e les avaient regardés. Qui se soucie encore, devant ces grands portraits de cour, de savoir quel regard exactement ont les personnages? Il y a un jeu constant entre le passé et le présent qui est très réussi. Dans l'intervention de Xavier Veillant cette année, le morceau de bravoure le plus spectaculaire, c'est au centre du Grand Canal. Il y a un immense jet d'eau qui avait été dans les projets de Louis XIV, mais qu'on ne pouvait pas réaliser techniquement à l'époque. Et ce jet d'eau, c'est une œuvre de Xavier Veillant. Alors évidemment, le spectateur qui arrive là a un doute. Est-ce que c'est une reconstitution d'un jet d'eau du temps de Louis XIV? Est-ce que ce jet d'eau a toujours été là? Maintenant, vous regardez la petite notice. C'est même assez ironique parce qu'il y a écrit « Le jet d'eau », c'est le titre, virgule, « technique mixte ». Et donc, c'est à la fois une œuvre de Veillant et quelque chose qui est parfaitement à sa place et qui s'intègre dans une sorte de Versailles rêvé, de Versailles idéal. Et ça, c'est réussi. Vous voyez, dans un cas comme ça, il y a un jeu avec l'art contemporain qui fonctionne très bien. Et qui, moi, ne me choque pas dans la mesure où c'est éphémère et où tout ça s'intègre à une dimension festive et ludique de Versailles, qui a toujours été un lieu de divertissement, de fêtes et de controverses.
Et ça vous semble aller dans un sens plus adéquat peut-être à notre époque? Je pense à une autre source de polémique qui est la politique d'acquisition nationale ou de trésors nationaux.
Ça, elle est assez brillante.
On a acheté cette console qu'on voit maintenant dans les appartements du Grand Dauphin et qui finalement, maintenant qu'elle est mise en place, ne se remarque pas beaucoup. Oui, on l'a payé une fortune, on sait qu'elle vient de...
Vous trouvez injuste. Je pense qu'il est très important, à côté effectivement de ces interventions très visibles, très médiatisées d'artistes contemporains, que Versailles poursuive la politique que Gerald van der Kemp avait entreprise, et puis les conservateurs après lui, de remeublement. Et c'est quand même très rassurant de voir qu'on peut encore voir revenir à Versailles des pièces importantes de mobilier, des tapis, des éléments tout à fait...
Parce que l'endroit dans lequel se trouve cette console dont on parle, ce sont des endroits qui, à part quelques pliants, n'ont jamais été vraiment meublés. On a de Versailles l'idée d'un château démeublé par la Révolution française,
ce
qu'il faut. Enfin...
Oui, d'abord, les meubles de Versailles, on a même continué à en vendre. Certains partaient en Lancan encore sous Louis XVIII et sous Charles X, des choses qui étaient démodées et qu'on continuait à vendre pour la plus grande gloire des collectionneurs britanniques. Donc ça, bien sûr. Et puis d'autre part, c'était des meubles qui souvent bougeaient. Certains étaient allés dans une résidence royale, ou selon le goût, Marie-Antoinette envoyait à Fontainebleau tel élément. Effectivement, on est dans une restitution qui suggère ce que tout ça pouvait être et qui peut-être permet d'imaginer qu'on remeuble Versailles différemment. Regardez le mobilier d'argent l'an dernier, c'était des meubles qui venaient de toute l'Europe. Magnifique, mais dont aucun n'était fait pour Versailles, puisque tout le mobilier d'argent de Versailles a disparu. Donc après tout, on peut remeubler Versailles, et on peut même aller très loin dans ce domaine. Pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas au mobilier national de meubler Versailles avec du mobilier du XXe siècle? Tous ces grands meubles qui ont été faits en 1930, en 1950. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas chercher... Imaginons que la monarchie ait traversé les siècles
Philippe Starck, le redesigner son Louis XX.
Et pourquoi pas? Voilà. Est-ce que ça serait absurde le temps d'une exposition montrant que finalement les artisans français continuent à très bien travailler, qu'on a toujours de très grands créateurs et qu'on peut imaginer...
Des commandes royales du XXIe siècle.
Oui, une histoire qui ne s'est pas interrompue. Une histoire qui fait que Versailles peut être encore aujourd'hui dédié à toutes les gloires de la France, comme Louis-Philippe l'avait voulu.
Il donnait l'exemple, peut-être, à d'autres monuments d'Europe.
D'une vitalité des arts décoratifs aujourd'hui en France, avec des designers qui sont là et qui sont prêts à travailler de cette manière, et que le Mobilier National, d'ailleurs, fait déjà beaucoup travailler. Donc, ça serait parfaitement envisageable. Je crois qu'il faudrait oser faire ce genre de choses. On parlait de Versailles comme un paquebot. Un mobilier de paquebot installé dans quelques salons de Versailles, en imaginant que tout cela a pu être fait sous un roi qui serait un Charles XII ou Charles XIV imaginaire, pourquoi pas, hein ?
Et quand vous rencontrez vos lecteurs, ce sont des pistes que vous soulevez plus ou moins dans l'intrigue à Versailles, ils vous suivent, vous avez l'impression que ce sont des choses qui les touchent ou...
Oui, ça m'a fait vraiment grand plaisir lors des rencontres, dans des librairies ou dans des salons du livre, de voir que tout ça passionne beaucoup les gens, qu'il y a vraiment beaucoup de lecteurs qui sont venus me parler, m'interroger sur toutes ces questions, et qu'au-delà du mystère du roman, de l'intrigue que Pénélope a résoudre, du fil qu'elle tire, il y a cet arrière-plan historique qui fait que aujourd'hui tout le monde s'enflamme pour les grandes expositions. Le patrimoine, c'est la passion première des Français, disait un sondage récent. Donc tout ça montre qu'il y a une actualité de ces questions. Ça me fait plaisir, bien sûr.
Est-ce qu'on peut savoir si actuellement vous êtes plutôt en train de donner une suite aux aventures de Pénélope et Vendry, ou si vous revenez vers vos premiers amours et vers la Dormeuse ?
Les deux. J'ai en tête trois autres hauts lieux où Pénélope va pouvoir continuer à mener des enquêtes. Donc, je ne sais pas encore dans quel ordre, donc ça, je préfère ne pas en parler. Mais l'année prochaine, c'est un roman tout à fait différent que je sortirai à nouveau chez Grasset, et qui se passe à Paris, rue du Bac, dans les années 1840. Voilà. Donc je reviens à quelque chose de plus proche de la Dormeuse de Naples.
Alors nous irons heurter le marteau de M. de Chateaubriand, peut-être.
Peut-être, et d'autres, à cette époque. Et on reviendra aux intrigues de Pénélope ensuite.
D'accord. Eh bien, écoutez, nous n'avons plus qu'à attendre. Alors, Adrien Goetz, je vous remercie beaucoup. Je vous rappelle que vous avez publié Intrigue à Versailles au printemps dernier chez Grasset. Merci beaucoup.
Merci.